Merci Pierre Chevalier, bonjour à tous.
Hey, you know what?
Bonjour et bienvenue donc dans une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à Sigmund Freud, rien de moins l'impensé Freud. Les grands esprits se repèrent ordinairement au fait qu'ils n'érigent pas de normes nouvelles, mais se contentent humblement d'exhumer le principe de nos actions. Il ne s'agit pas autrement dit avec la psychanalyse d'énoncer ce qui doit être, même si la psychanalyse est affaire de loi, mais plutôt ce qui est, ce qui agit à l'insu de notre plein gré, comme le dit Richard Virenc dans une formule d'une densité psychanalytique étonnante. Freud est de ces archéologues donc qui explorent à tâtons les voies royales de l'humanité. Il est de la famille de Kant, dont le propos n'est pas de construire une morale, mais de manifester le soubassement de toute morale, de Spinoza, qui en déconstruisant le libre arbitre ne voulait pas donner le jour à une liberté nouvelle, mais dessiner les contours d'une liberté véritable, de Descartes, enfin et surtout, qui partage avec Freud le privilège rarissime d'inviter ses successeurs à penser avec et contre lui. À ceci près néanmoins que Descartes recherche la clarté, les idées claires et distinctes, et l'aptitude, comme il dit, à marcher avec assurance dans cette vie. Tandis que Freud, le spéléologue, conquistador de terres opaques, s'aventure dans l'entre-deux, traque la pulsion sous le choix, l'inconscient sous la décision, et marche à tâtons donc sur la voie royale qui mène à ce qui nous agit sans qu'on le sache. La démarche d'un tel médecin est pourtant aussi celle d'un philosophe, dans la mesure où la philosophie n'a pas pour vocation d'apprendre ce que nous ignorons, mais de mettre le nez sur ce que nous savons et refusons de voir. Freud, philosophe donc, c'est l'humble pari de cette semaine où les nouveaux chemins de la connaissance reviendront sur des ouvrages comme « Malaise dans la culture »,« L'homme Moïse et le monothéisme »,« Totem et tabou »,« Au-delà du principe de plaisir » et « L'essai majeur cardinal de l'interprétation des rêves ». Mais il eût été incongru et presque mensonger de lire Freud avant d'embrosser le portrait. Et qui mieux qu'Elisabeth Roudinesco pouvait nous aider aujourd'hui à présenter la figure exquise d'un homme dont Peter Gay, dans la biographie qu'il lui consacre, affirme qu'il était révolutionnaire dans sa pensée, bourgeois dans ses mœurs, conservateur dans ses goûts artistiques, conscient d'appartenir au peuple juif mais délibérément irréligieux, théoricien de la sexualité mais chastement fidèle à sa femme, capable d'exaltation et sujet à des passages dépressifs, chef de clan, bon père de famille, artisan de la libération sexuelle et totalement identifié dans son message, dans son ménage, au bourgeois mâle traditionnel. C'est donc sur un lapsus que nous allons entamer cette émission avec vous, Madame Roudinesco. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, message, ménage. Je vous laisse le soin de me dire ce qu'il signifie. C'est à vous qu'on doit, entre autres, un dictionnaire de la psychanalyse, la préface à la correspondance de Freud Voyageur, Notre cœur tend vers le sud, paru chez Fayard en 2005, et un documentaire magnifique sur la vie de Freud. Alors, avant de nous plonger dans la vie, c'est-à-dire l'œuvre de Freud, je voudrais partir d'un triple héritage ordinairement assigné, en tout cas assigné par vous, à l'inventeur de la psychanalyse et avoir votre sentiment donc sur cette filiation. On dit, vous avez dit, que Freud était à la fois un homme des Lumières, un héritier du romantisme, ce qui peut déjà sembler contradictoire, et un médecin qu'indigne le nihilisme thérapeutique. Alors, d'abord, que signifie nihilisme thérapeutique? Et puis, que vaut cette triple filiation? Comment la comprendre, Elisabeth Roudinesco?
D'abord, le romantisme devenu scientifique, c'est en effet, Thomas Mann l'avait signalé. Bien sûr que Freud est philosophe, mais à son insu, on peut le dire, parce qu'il refusait les systèmes philosophiques qu'il considérait comme paranoïaques et il voulait s'inscrire délibérément dans la science et il se voulait darwinien. Mais bien entendu qu'il a bâti une œuvre philosophique. Je dirais d'ailleurs que c'est plus proche de Nietzsche, de la philosophie allemande. Il y a la rationalité cartésienne, il y a Kant, il n'y a pas de doute, ça se voit. Mais il y a l'idée d'aller explorer ce que la philosophie n'a pas exploré, c'est-à-dire l'irrationnel. Je crois que tout en donnant de la raison à l'irrationnel.
C'est-à-dire que le cheminement est rationnel et misologue en même temps.
Oui, et surtout, il y a bien chez lui, dans le fait qu'il va vers le rêve, qu'il va vers la littérature, il y a quelque chose du romantisme. Je compléterais Peter Gay, qui était un historien de l'époque victorienne, qui je trouve a, c'est bien, bien résumé, mais il y a plus de passion romantique chez Freud. Autrement dit, si Freud, une caractéristique dans sa personnalité, c'est un passionné qui arrive à dominer ses passions. Je crois l'avoir dit aussi dans la correspondance, il y a le ça pulsionnel chez Freud, il y a le surmoi. Et il passe son temps d'ailleurs à aimer l'Italie et surtout la ville de Rome comme on aime une femme, dans une passion. Et puis il aime la monarchie anglaise parce que c'est le contraire, elle impose un idéal d'ordre et de travail. Donc il est partagé dans ces deux choses, en cela il est extrêmement romantique. D'autre part, penseur des Lumières sans aucun doute, Freud était attaché au progrès, était darwinien, pensait que la science était libératrice, mais je le situerai dans la lignée, c'est un peu ce que j'ai fait partout, dans la lignée de penseurs des Lumières sombres. On a Adorno, hein, Adorno qui est tout à fait dans
cette optique. Vous dire, oui.
Voilà. Et d'ailleurs, Adorno, qui a été très freudien, avait aimé chez Freud ça.
Est-ce qu'il n'a pas congédié Freud au nom peut-être d'un tempérament plus systématique?
Non, il n'a pas congédié Freud, il l'admirait profondément. Il y a des pages admirables d'Adorno et d'Horkheimer sur Freud. Ils ont en revanche condamné les psychanalystes qui avaient détourné complètement sa pensée. En revanche, donc, mais ils ont vu dans Freud, c'est-à-dire quelque chose. Freud met au cœur de l'humain la pulsion de destruction, de cruauté.
Est-ce qu'il le fait d'emblée ou est-ce qu'il attend la Première Guerre mondiale pour le faire?
Il attend la Première Guerre mondiale, bien entendu, pour le théoriser. Mais c'est déjà là. Autrement dit, il y a chez lui quelque chose très tôt où il voit de la férocité à l'intérieur de chaque homme. Alors, savoir si c'est la Première Guerre mondiale ou la mort de sa
fille Sophie,
c'est un débat auquel il a déjà répondu. Il considère que peut-être tout ça a joué, mais qu'il y a une logique de l'œuvre. Moi, je le pense.
Dans une lettre à Lou Andrea Salomé, la Lou de Nietzsche, hein, c'est peut-être le mais bien sûr, c'est peut-être là le véritable point commun entre les
absolument
deux. D'ailleurs, hein, ils ont un amour en commun. Dans une lettre à Lou, Freud, on est au lendemain de la Première Guerre, dit ceci. L'humanité, je n'en doute pas, se remettra même de cette guerre, mais je suis certain que ni moi ni mes contemporains, nous ne retrouverons un monde heureux. Tout est trop horrible, et ce qu'il y a de plus triste, c'est que tout arrive comme la psychanalyse aurait pu le prévoir, d'après sa connaissance de l'homme et de son comportement. Phrase étonnante, parce qu'on a à la fois le sentiment que c'est un homme affecté par ce que l'humanité vient de s'infliger à elle-même, et qu'en même temps, le fait d'être affecté ne l'empêche pas de comprendre que finalement, la découverte de cette pulsion de mort en l'homme, elle était déjà sous-jacente dans les travaux qui ne la formulaient pas avant la Première Guerre mondiale.
Mais bien sûr, et c'est pas pour rien que Freud, dès 1897.
Il faut préciser chronologiquement, hein, 97, 1800... il n'a pas encore publié ses grands livres.
Il n'a pas encore publié ses grands livres, mais
on est deux ans avant l'interprétation des rêves.
Donc, on le connaît par la correspondance avec Wilhelm Fiske, qui était ce médecin fou berlinois qui élaborait d'ailleurs des théories romantiques. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, tous les savants s'intéressaient à la sexualité. Freud n'est pas seul du tout. Il y a 1000 livres sur la sexualité. Que fait Freud, qui est un coup de génie? Je ne dirais pas que c'est le complexe d'Édipe, que je n'aime pas. C'est d'avoir ramené nos petites affaires ordinaires à la tragédie grecque. Donc, c'est déjà là, en ce sens, qu'il dit « nous sommes tous des Édipes », c'est-à-dire condamnés, au fond, à la confrontation avec une vérité qui nous échappe. Et il ajoute tout de suite « Hamlet » aussi, donc la conscience coupable. C'est-à-dire deux grandes tragédies, donc la Grèce, qu'il aimait tellement, tragédie grecque, et puis Shakespeare.
Ce qui est étonnant dans ces deux tragédies, Œdipe comme Hamlet, Elisabeth Roudinesco, c'est que ce sont deux tragédies sans suspense. Nul ne doute, d'ailleurs Œdipe n'est surpris que de l'arrivée de ce que tout le monde avait prévu, et que par conséquent il n'ignorait pas. De la même façon, toute l'histoire d'Hamlet, c'est l'histoire d'un homme qui tarde à accomplir ce qu'il sait devoir accomplir.
Donc,
dans les deux cas, on est en présence de tragédies sans suspense et presque sans histoire, si j'ose dire.
Si, parce que justement, c'est pour ça qu'il ramène ces deux-là, ça se complète, pour une raison, c'est que, en gros, Œdipe, c'est l'inconscient, c'est-à-dire on n'y peut rien, c'est le coup près. Œdipe va découvrir qu'il a commis à son insu ses actes. Et quant à Hamlet, c'est plutôt la névrose, dira Freud. Il en fait un hystérique. Moi, je pense que ce n'est pas tout à fait ça le problème, mais c'est la mélancolie, c'est l'impossibilité d'agir et c'est la conscience coupable. Au sens chrétien, on est en 1600, et donc on peut dire que ces deux figures-là sont dominantes dès le début dans l'œuvre de Freud. Et c'est pour ça qu'il n'est pas ce psychologue ordinaire, comme l'étaient tous les savants de la même époque, qui disaient presque la même chose que lui. C'est que lui, il est le seul à faire de toute cette affaire une affaire humaine, universelle, qu'il va rattacher d'ailleurs, il va se rattacher à Darwin et à Copernic, hein, c'est pas pour rien qu'il va montrer que...
Il s'inscrit clairement dans une filiation, dans une révolution de même
dans
ampleur.
Dans une révolution de même ampleur, c'est-à-dire le décentrement du sujet.
Mais alors, revenons juste un instant encore sur Hamlet. Hamlet, c'est un homme qui n'agit pas alors qu'il sait ce qu'il doit faire. Freud lui-même, à la mort de son père, quand il entame son auto-analyse, alors là, pour mémoire, hein, on est à la fin du 19e siècle, il entame son auto-analyse...
Il ne le sait pas.
Il ne le sait pas. Mais il dit ceci, il dit « Je me sens comme dans un cocon et Dieu sait quelle bête va en sortir. Hein, » La psychanalyse est née de ce deuil capital, la perte de son père, comme Hamlet, hein, qu'une maïotique fera accoucher de lui-même. Freud est dans cette situation-là. Et en même temps, entamant son auto-analyse, à un moment, il se sent saisi, il le dit dans sa correspondance, d'indolence, de paresse, de nonchalance, quelque chose de typiquement hamlétien, si j'ose dire. Et il y voit une forme de résistance.
Oui, mais attention au mot auto-analyse. Ce n'est pas une auto-analyse, une analyse originale, je préfère le terme, parce que ce n'est pas du tout théorisé. Il va le dire après que c'était son auto-analyse. Il a une véritable passion pour Wilhelm Fliess, qui est son correspondant, et qui est lui le contraire de Freud, qui élabore des théories absolument délirantes sur la sexualité. Il faut voir aussi que Freud passe par l'adhésion à des théories délirantes, ça Sartre l'a très très bien montré dans son scénario Freud, avant d'accéder à une vérité.
C'est le texte que Sartre destinait à John Huston.
Absolument. Et donc, il passe par quelque chose qui est complètement délirant, avant d'accéder à la vérité. Donc, il y a la naissance aussi de ça. Il est, à ce moment-là, pris de tous les côtés. L'affaire de la mort du père, c'est aussi la société viennoise qui est hantée par les rapports des pères et des fils. Ce qui va donner naissance donc à cette affaire édipienne, c'est au fond la déception. Toute la culture viennoise, fin de siècle, est dans une position de ne plus croire au progrès du libéralisme. Et tout en s'inscrivant quand même dans cette culture de l'immobilité, on veut découvrir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière l'inconscient, la mort, l'éternité, l'immobilité. C'est très passionnant ce creuset viennois. Freud, qui déteste Vienne, qui n'a pas accès à toute cette culture, en est marqué, à mon avis, à son insu. Et donc, il y a ce moment qu'on peut appeler de dépression mélancolique chez lui, qui va l'amener à sortir, au fond, de théories fausses pour accéder à la vérité. Mais ce qui est passionnant dans cette correspondance, d'ailleurs, comme la correspondance de voyage,
on va y venir justement.
Notre image, c'est il est ce savant romantique traversé de passion, de pulsion, qui renonce, qui en même temps, même avec les femmes, c'est sûr qu'il a choisi Martha. Je suis pas sûre qu'il ait eu ce comportement si bourgeois qu'on dit. Il l'a eu, bien sûr, mais en même temps, il était pour l'émancipation des femmes. Il a poussé ses filles à travailler.
Et ses enfants ont reçu une éducation libérale.
Une éducation libérale.
Donc le cliché d'un Freud conservateur pour lui-même et révolutionnaire dans ses théories.
Ça, c'est ce qu'il dit, lui.
C'est ce que lui-même dit de lui-même.
Et puis, c'est l'image que ça donne. En réalité, si on va un petit peu au-delà des apparences, il faut le voir comme quelqu'un qui traverse lui-même des moments très, très douloureux. Il fait des choses incroyables avec sa fille. Il veut la garder pour lui. Il ne veut pas qu'elle épouse ses disciples.
Pardonnez-moi, mais surtout, il la prend en analyse.
Il la prend en analyse.
Ce qui est quand même contraire aux règles.
Non, il n'y avait pas de règles.
Donc, les règles ont été édictées après. Oui,
c'est tout à fait ça. Là, il faut mettre la chronologie. Les règles n'existaient pas. Et elles commencent à être édictées à partir de 1918, quand la psychanalyse devient un mouvement. Et que là, on ne peut plus rester dans, disons, ce qu'on appelait la horde sauvage.
Oui, la foire, le moment où tout le monde analyse tout
oui,
le monde
c'était
pour,
beau, ces
pour faire connaissance. Mais c'est formidable.
Il faut voir ce que c'était aussi, tous ces freudiens viennois. Il y avait beaucoup de fous, beaucoup de suicides, beaucoup de gens qui exploraient en eux-mêmes ce qu'ils voyaient dans leurs patients. C'était un bouillon de culture très étonnant. Ce qui fait qu'en effet, il y a ce passage chez Freud. J'ajoute aussi que dans ses amitiés avec les femmes, Freud aimait les femmes intellectuelles. Et notamment Lou Andrea Salomé, qui a été quand même une sorte de grand amour platonique pour lui.
Alors, il n'y a pas qu'elle, il y a aussi
Marie Bonaparte.
On va parler de Marie Bonaparte avec vous, Elisabeth Roudinesco. Et on va également entendre sa voix. Mais avant cela, Je voudrais qu'on revienne un instant sur... qu'on reste un instant en Œdipe, que vous n'aimez pas, donc. Mais
pas le complexe, pas la psychologie, complexe. Mais j'adore la tragédie.
Dans les voyages de Freud, vous avez parlé de son amour pour l'Italie. Ouais. Bon, il faut tempérer ce que vous dites là, puisqu'il détestait les trains italiens, qu'il trouvait bondés, suffocants, à bon droit d'ailleurs. Il n'aimait pas les trains italiens, mais il se rachetait sur le vin italien qu'il oui. adorait, lui. Bon, et il y a de toutes les villes d'Italie, une qui est le plus chère que toute à son cœur, c'est la ville de Rome. Or, dans la préface, Elisabeth Roudinesco, que vous faites à la publication de sa correspondance de voyage « Notre cœur tend vers le sud », vous racontez pourquoi Rome occupe une telle place dans son existence. Alors, je voudrais vous laisser le soin de revenir sur cet épisode, justement.
Alors, Rome, c'est à la fois un homme et une femme pour Freud. Il veut la posséder comme une femme et en même temps, ça renvoie à toute une histoire qui est la revanche d'Hannibal. Qui a été donc Rome, c'est l'empire qu'il faut conquérir, c'est la nouvelle culture classique pour les juifs de ghetto de Vienne. L'accès à la culture grecque et antique, enfin, l'accès à toute cette culture, c'est évidemment être un autre, accéder à l'universel. Et Rome joue pour lui tous les rôles possibles. La Rome antique, c'est les soubassements de l'inconscient. La Rome de la Renaissance, c'est évidemment les peintres qu'il aime, Léonard de Vinci, Michel-Ange, et c'est aussi le Moïse fait par Michel-Ange. Donc c'est toute la culture classique qu'il aime. C'est aussi la culture chrétienne qu'il découvre. Et d'autre part, il y a ce souvenir d'enfance, quand il était enfant.
Allons-y.
Son père lui a raconté une scène qui avait eu lieu bien antérieurement où le père, donc Jacob, avait été victime d'une agression antisémite. Quelqu'un lui avait jeté son bonnet par terre.
En lui disant « Juif, descend du trottoir ».«
Juif, descend du trottoir ». Et Freud avait demandé à son père « Et qu'est-ce que tu as fait ?» Et il dit « Je suis descendu du trottoir pour ramasser mon bonnet ». C'est cette histoire-là. Et à ce moment-là, Freud, beaucoup plus tard, substitue à cette scène le serment que fait Hannibal de venger son père Hamilcar, qui avait été vaincu par les Romains, et donc de reconquérir Rome. Or, vous savez que Hannibal n'a jamais dépassé le lac Trasimène et qu'il n'a pas reconquis Rome. Donc il y a une identification chez Freud qui est centrale dans le mouvement analytique, c'est l'identification au héros, au conquérant. Je vous rappelle Christophe Colomb, Napoléon et Hannibal. Donc conquérir Rome.
Est-ce que symboliquement reconquérir Rome ou conquérir Rome, ça n'est pas achever le parricide, si j'ose dire. Est-ce que ça n'est pas aller au-delà, finalement ?
C'est ce que Karl Schorske a dit. C'est tout à fait quelque chose comme ça. Mais en même temps, Rome est une femme. C'est dit dans la correspondance, c'est pas moi qui l'ai inventé. Freud, d'ailleurs, a besoin de présence féminine pour voyager. Il voyage, quand il arrive, il s'arrête au lac Trasimène, et puis enfin, il arrive à Rome. Et là, il y a une scène extraordinaire. Il est d'ailleurs avec son frère, qui est un spécialiste des trains. Hein. Freud avait peur des trains. Enfin, il voyage avec son frère Alexander. Et là, il dit 15h, place du Panthéon, ça y est. Et il est imprégné, à ce moment-là, de tout. Il visite de façon extraordinaire toute l'histoire de l'humanité, toutes les Roms successives, hein, il les aime toutes, et il est imprégné, il y a une possession de la ville, il aime en effet le vin, en même temps il a des descriptions très intéressantes, il faut voir ce que c'était hein, les voyages à l'époque, on oublie que les trains, on sortait plein de suie, que c'était très difficile de réserver des places.
On y entrait en cravate, d'ailleurs. On voyageait en cravate
oui,
et on en sortait plein de suie.
Il n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, c'était difficile pour lui. Il retenait des hôtels pas chers. Bon. Et puis, il y a eu tout le voyage, notre cœur tend vers le sud. Enfin, il voulait aller au sud de Rome. Et tellement au sud que c'était la Sicile, tellement au sud qu'il rejoignait Athènes. Ensuite, il va enfin aller
sur l'Acropole.
Sur l'Acropole. J'ai mis ma plus belle chemise pour visiter l'Acropole. C'est quand même extraordinaire. Bon. Et si vous voulez, il y a une passion des voyages. Et dans cette passion des voyages, qui est, je dirais, dans du désir. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, en effet, il laisse sa femme Martha, qui veut plus voyager, qui n'a pas envie de voyager.
Et il voyage avec sa belle-sœur.
Pas toujours.
Le plus souvent. Tantôt avec son frère, tantôt avec Ferenczi, tantôt avec sa belle-sœur.
Donc avec sa belle-sœur. Et elle, qui est évidemment cette femme dont il voulait qu'elle épouse un de ses amis à lui, puis ce jeune homme est mort, et donc elle a occupé la place de la tante à l'intérieur de la maisonnée, ce qui, je le rappelle, pour tous les gens qui ont fantasmé sur une hypothétique relation sexuelle, qui aurait pu d'ailleurs avoir lieu en 98, mais pas après, me paraît je crois que c'est pas ça du tout.
Et moi, Elisabeth Roudinesco, pardonnez-moi. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on se pose une telle question ? Et en quoi, connaissant la vie de Freud, il n'est pas indiscret de se demander une chose pareille ? Parce qu'en général, on se dit qui a couché avec qui, on s'en fout. Mais en l'occurrence,
non, c'est impossible. Le fondateur de la théorie nouvelle de la sexualité, il faut qu'il ait une faute originale.
Alors, donc il y a cette question. Or, moi, c'est de votre préface, Elisabeth Roudinesco, que je tiens l'impression. Pardonnez-moi, parce que vous avez donné une impression contraire à votre conviction. C'est de votre préface que je tiens l'impression que Freud aurait pu passer une nuit avec sa belle-sœur.
Oui.
Or, alors, qu'en
non,
est-il ?
Parce que j'ai répondu à ceux qui ont examiné les chambres, qui ont fait, c'est un débat américain, bon, la faute originelle...
Vous voulez dire, c'est un débat sur la vie... Oui, puritain.
Tout à fait.
Et puis sur l'exactitude aussi.
Exactement. Donc, j'ai répondu à l'exactitude parce que je suis en même temps historienne et que je considère qu'il faut répondre aux faits et qu'en France, on ne s'en occupe pas et on a tort. Bon, donc, ce n'est pas les chambres. Ça, c'est sûr. Tout le monde s'est trompé.
Bon, ils n'ont pas dormi dans la même chambre.
Si, bien. Mais c'est pas ce qu'on en a dit, c'est-à-dire c'est pas un seul lit, c'est des chambres dans lesquelles on réserve, c'est pas on met des rideaux, on voyageait à l'époque toujours, peut-être qu'il y avait deux chambres, quelquefois il n'y avait pas de chambres, et donc il y a une séparation. En tout cas, c'est pas du tout ce qu'on a dit, donc c'est pas les chambres. En revanche, ce que j'ai bien examiné, c'est ce qui est dit, et il y a à ce moment-là un moment où il parle de Mina dans la correspondance.
Mina, c'est la belle-sœur.
Belle-sœur. Ils sont tous les deux très excités par le voyage. Et en fait, le désir de Freud, c'est le manque de sa femme. C'est clair. Il voudrait avoir Martha. Il y a quelque chose qui est fini avec Martha, parce qu'il ne veut plus d'autres enfants. Et donc, ils ont arrêté les rapports sexuels. Mais ils n'ont pas seulement arrêté les rapports sexuels.
Dans la correspondance, avant, il commençait par mon amour. Et ensuite, voilà, 20 ans plus tard, c'est ma chère vieille.
Ma chère vieille. Donc, elle est passée du stade de femme désirée, etc., au stade de mère qu'il aime. Et puis, il va ailleurs. Sa libido s'en va ailleurs, on peut le dire comme ça. Et elle s'en va vers quoi ? Vers Rome, vers le voyage lui-même et vers la nécessité d'une présence féminine dans les voyages. Alors il le dit parce qu'il dit « Ferenczi est trop féminin pour moi et je suis pas assez homosexuelle et puis flûte, je préfère la présence d'une femme. » Et Mina marche comme lui, c'est une incroyable randonneuse. Ils avaient une amitié très forte, ils se ressemblent, c'est des grands passionnés tous les deux, il le dit. Et il avait dit d'ailleurs « c'est pas Mina que j'ai épouserai parce qu'elle me ressemble et c'est Martha. » Et il avait conseillé d'ailleurs à Mina d'avoir quelqu'un qui ressemble à Martha, c'est-à-dire il avait rêvé au fond de tout ça. Alors on voit pas du tout cette histoire, elle est désirante, elle est pas très sexuelle.
Mais alors deux questions, Elisabeth Roudinesco. Pourquoi voulez-vous à tout prix que Freud n'ait pas couché avec sa belle-sœur ?
Ah non, je laisse.
Je vous pose la deuxième question. Pourquoi est-il important et non pas indiscret de se poser une telle question en ce qui le concerne. Parce que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, par exemple, ce genre de scrupule ferait les choux gras de n'importe quelle presse trash.
C'est ce qui a été aux États-Unis.
Alors voilà.
J'ai répondu à un débat qui n'est pas européen, ou pas français en tout cas, et qui a été monté par... Moi-même, la question ne se posait pas comme ça. Mais à partir du moment...
Mais est-ce que c'est intéressant ?
Si vous voulez, oui, parce que on est confronté, quand on est historien, à répondre de tout. Je vois pas d'ailleurs pourquoi on ne répondrait pas de tout. Aux États-Unis, cette affaire est devenue une affaire nationale. Toute la presse a publié cette affaire. C'est venu d'un historien révisionniste dans le mouvement psychanalytique qui inverse les légendes dorées jusqu'à faire des légendes noires. Et Freud est devenu un monstre abominable qui aurait commis l'inceste. Alors, comme on sait que ce n'est pas avec sa fille, parce que ça, ce n'est pas le cas, il faut lui trouver la faute. Et ça, c'est un débat très américain, qui s'est inscrit dans toute l'histoire du politiquement correct, aussi du président Clinton, il n'y a pas de doute. En France, on n'est pas
du tout... On part de Freud pour aller jusqu'à Philip Roth, jusqu'à la tâche de Philip Roth.
Évidemment, ça s'est inscrit là-dedans. Philip Roth est génial comme écrivain, et puis bon. Mais il fallait donc trouver chez Freud ça. Alors... On peut jamais, moi je suis d'une très grande prudence, je ne vais pas affirmer péremptoirement. Et d'ailleurs, Peter Gay, qui est de mon avis, on a l'examen aujourd'hui de la totalité de la correspondance, il n'y a rien. Il n'y a rien qui prouve. Mais évidemment, il y a un moment, on ne peut plus rien prouver de quoi que ce soit. Bon, donc il faut faire des hypothèses. Ça ne colle pas beaucoup avec le contexte, ça ne colle pas avec la manière dont ils écrivent, ou alors il faudrait deux grands pervers monstrueux qui mentent tous les deux. Or, ce n'est pas ça qui se passe. il se passe tout à fait autre chose. Il se passe un voyage. Ça ne peut être qu'en 98. Et surtout, aux États-Unis, ce débat historiographique est devenu fou. Parce que les anti-freudiens ont inventé... Alors, ça vient... la chose vient de Jung. C'est Jung qui, un jour, qui inventait des histoires qui n'existent pas. Jung était un conteur admirable qui passait son temps à inventer des histoires qui n'existaient pas. Et c'est lui qui a lancé cette affaire. Lui, celui qui était contre la sexualité et qui, lui, avait des maîtresses, des rapports sexuels même avec ses patientes, etc. C'est lui qui lance la faute sur Freud et qui explique, c'est lui qui raconte que Mina lui aurait confié ça. Mais il n'y a que Jung qui l'a entendu. Personne d'autre. Bon. Donc, il invente cette histoire qui ensuite va partir.
Il faut rappeler en quelques mots Elisabeth Roudinesco, qui était Jung hein, aussi.
Alors, Jung était...
Et la façon dont ils se sont rencontrés dans le documentaire que vous consacrez à Freud. Ouais. Jung raconte que leur première rencontre avec Freud...
18 heures.
C'est 13 heures.
13 heures,
heures
oui,
il
pardon.
Le dit. Non, je vous en prie, je l'ai vu hier, vous l'avez fait il y a 10
heures,
ans. Donc mais 13 heures. 13 heures. Donc, il dit, on se parlait sans compter. Hein, et tant et si bien d'ailleurs qu'on ne s'est même pas aperçu à la fin qu'on était en train de mourir. Évidemment, de faim, de soif, d'épuisement. Voilà. Et puis, ils ont fini par se séparer finalement sur la base d'un occultisme qui n'était pas freudien et qui était celui de Jung davantage, qui
je
était plus vers la pensée magique.
Tout à fait. Je crois que Jung était d'abord un grand psychiatre dans la tradition suisse et qu'il a offert à Freud, c'est Freud qui le dit, la terre promise de la psychiatrie. Freud commence avec les maladies nerveuses, les névroses, et en effet, il n'est pas psychiatre. Et c'est grâce à Jung et à cette rencontre, pas seulement avec Abraham, etc., mais en tout cas avec la Suisse,
Karl Abraham,
on commence à s'occuper autrement de la folie, et notamment de redéfinir les contours d'une nouvelle nosographie, d'une nouvelle classification psychiatrique. La psychiatrie de la fin du XIXe siècle en était arrivée à un point de nihilisme, c'est-à-dire qu'elle ne soignait plus, elle classait. Et on mettait les patients dans les asiles avec des traitements corporels, un petit peu comme aujourd'hui, hein, sauf qu'il n'y a plus d'asile. Mais enfin, ce qu'on appelait le nihilisme, ce n'était pas la parole. Et cette deuxième révolution dans la psychiatrie, qu'on appelle la révolution dynamique de fin du 19e, Jung s'y est inscrit avec Bleuler. On définit la schizophrénie, on définit la possibilité de traiter les malades mentaux par la parole.
On leur donne la parole, tout simplement.
Tout à fait.
On leur donne la parole.
Voilà, et on considère que ce qu'ils disent n'est et peut-être un univers de folie, mais que ça a une signification.
Je crois que c'est Ernest Jones qui dit que oui. Freud avait cette particularité tout à fait étonnante de la part d'un médecin d'écouter son patient.
Absolument.
Et non pas de l'examiner, ou plus exactement de l'examiner en l'écoutant.
Oui, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il invente le divan, c'est-à-dire ne plus regarder, ne plus observer comme la médecine, mais écouter la parole. Et donc la rencontre avec Jung, c'est capital pour Freud. Et c'est vrai, mais Jung appartient à une toute autre tradition. C'est un psychologue des profondeurs, plus inscrit dans le 19e siècle, l'occultisme, etc.
Dans le romantisme, peut-être, tout simplement.
Oui, mais dans un romantisme, alors, qui bascule du côté...
Nervalien.
Oui, mais quand même, du culturalisme. Il y a chez les Zurichois quelque chose qui n'est pas du tout chez Freud. C'est les protestants, c'est la fascination pour les cultures paysannes, pour les langues inconnues, il y a tout le débat sur les langues martiennes. Tout ça, c'était pas Freud. Enfin, il aimait pas ça. Freud aimait pas ça du tout. Mais Jung est fascinant. Jung, d'abord, a lu la philosophie. Jung est un homme cultivé. Puis il est passionnant. Il raconte plein d'histoires. Il adore faire tourner les tables. Freud est intéressé par tout ça. On est en 1906, là. Donc, voilà. Et puis Jung n'était pas juif.
C'est ce que j'allais vous dire. Aux yeux de Freud, l'avantage considérable de n'être ni juif ni vieux quand ils font leur connaissance.
Ah, oui,
mais alors, quand ils font connaissance.
C'est l'élève, c'est le dauphin. Et il pense qu'avec ça, il pense que la psychanalyse sortira du ghetto viennois. Et donc de juifs, ça c'est tout.
Alors on va revenir sur le rapport de Freud et du judaïsme, le rapport complexe qu'il entretient avec son judaïsme et l'hypothèse notamment de quelqu'un comme Yerushalmi avec qui vous n'êtes pas tout à fait en accord et en même temps
que
il faut reconnaître,
beaucoup, ouais.
Voilà, à l'intérieur d'une admiration véritable. Alors avant cela, je voudrais qu'on revienne sur une autre rencontre essentielle de Freud. On a parlé de l'importance des femmes dans son existence. Celle-là est essentielle dans le dispositif freudien même et dans sa stratégie. C'est Marie Bonaparte et je voudrais avant qu'on évoque sa figure, qu'on entende tout simplement la voix de Marie Bonaparte. Écoutez.
J'ai d'ailleurs eu l'honneur d'être l'élève de Freud en 1926. J'ai subi par lui une analyse didactique qui m'a permis de connaître la pensée du maître et surtout de connaître la façon dont il vivait dans son intimité tellement tellement honorable et tranquille, contrairement à ce que tant de gens en croyaient, que Freud était un personnage bizarre qui ne s'intéressait qu'aux problèmes de la sexualité en vertu d'une perversion personnelle. Je pus voir la remarquable harmonie qui régnait dans sa famille. Il vivait entre sa femme et ses enfants, et en particulier Anna Freud, qui est sa plus grande continuatrice et qui actuellement exerce à Londres la psychanalyse d'une façon magistrale, et qui est d'ailleurs restée ma meilleure amie. Mademoiselle Freud travaillait donc conjointement avec son père, mais lui-même, ça ne l'empêchait pas de continuer à avoir un certain nombre d'analyses. Il avait surtout d'ailleurs des analyses didactiques à ce moment, et je n'oublierai jamais le salon où il recevait ses patients, qui était plutôt son bureau, le divan sur lequel avait été créée l'analyse, sur lequel j'eus également l'honneur de m'étendre, au-dessus de duquel trônait le portrait de Charcot, dont il avait gardé un grand souvenir et pour lequel il avait un grand culte. Freud, d'ailleurs, était un des êtres les plus doux et les plus dénués d'agression et de méchanceté que l'on puisse voir. Il vivait d'une façon extrêmement simple. Il me disait un jour, on dit que les hommes de génie sont insupportables dans leur famille. Demandez à ma famille si je suis insupportable. Je ne dois donc pas avoir de génie. Eh bien, et c'était exact. C'était l'homme le plus dénué de cruauté et d'agression que l'on puisse voir. Il aimait d'ailleurs également beaucoup les animaux. Il avait en particulier de magnifiques chiens chow qui trônaient au pied du divan pendant les analyses. Et comme le disait sa fille et lui-même, au moins cet auditeur-là ne révélera pas les secrets du divan analytique. Il aimait beaucoup aller à la campagne. Ses plus grands plaisirs l'été étaient les excursions dans les bois, la recherche des champignons sous les arbres. Il avait un grand sens de la nature et l'amour de tout ce qui était naturel et sain.
Tu m'écris, Léon, qu'il faut que je t'oublie, parce que dans quelques jours, tu vas te marier. Ce que tu me demandes là, mais c'est de la folie, car il y a des amours qu'on ne peut oublier. Je te l'ai toujours dit, tu fus le premier homme qui m'ait chaste et pure tenu entre ses bras. Ça te fait ricaner, ricane mon bonhomme. Tout de même, c'est une chose qu'une femme n'oublie pas. Ah oui, que j'étais pure, c'était ridicule. Des choses de l'amour, je savais rien de rien. À ce point que toi qui n'es pas pourtant un Hercule, tout ce que tu faisais, je trouvais ça très bien. T'aurais pourtant pas fait comme ce colosse, des choses épatantes entre tes deux repas. Vois-tu mon pauvre vieux, non je ne suis pas rose, mais quoi, il y a des choses qu'une femme n'oublie pas.
Yvette Guilbert dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, d'elle à lui, c'est une chanson, alors je ne sais pas si c'est celle-là, mais enfin Yvette Guilbert a chanté devant Freud, on le voit dans votre documentaire Elisabeth Roudinesco, quand Freud quitte en Vienne pour Londres, passe par Paris,
c'est une image
tout à fait extraordinaire, et c'était chez Marie Bonaparte dont on a entendu le témoignage juste avant, témoignage qui est presque une hagiographie. Y avait-il un point de désaccord entre Marie Bonaparte et Freud?
Non, Marie Bonaparte fait un portrait complètement hagiographique, mais on peut comprendre. On a maintenant toutes les archives, je les ai d'ailleurs, tout n'est pas publié, le journal Au Jour le Jour de Marie Bonaparte, qui est passionnant. Il y a une biographie de Célia Bertin, et il y a un film assez beau de Benoît Jacquot, où c'est Catherine Deneuve qui interprète le personnage. Marie Bonaparte, 1925, hein, 26, en effet, d'abord c'est une Bonaparte, l'arrière-petite-nièce, qui a épousé le prince de Grèce, et qui est à la recherche d'une grande cause, qui est dans un ennui absolument mortel, qui fait toutes les cours d'Europe, qui est à la recherche d'une grande cause. Et elle va très mal, elle est au bord du suicide. Et c'est René Lafogue qui l'envoie à Freud, qui d'abord ne veut pas la prendre, bon, et puis il va la prendre en analyse. Et si une cure est réussie, c'est cette cure-là. Ça va durer jusqu'en 38. Ça va durer par étapes. Elle va à Vienne, et en même temps, elle apporte à Freud d'abord la fondation de la psychanalyse en France avec d'autres, et quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle met sa fortune.
C'est-à-dire que Marie Bonaparte est à l'origine finalement de Dolto et Lacan.
Non.
On ne peut pas dire ça.
Non, on ne peut pas dire ça parce que cette première génération, elle a été violemment contre Lacan. Elle n'a pas connu Dolto du tout. Et Marie Bonaparte, la première partie de sa vie est extraordinaire parce qu'il y a Freud et qu'elle va devenir l'ambassadrice de Freud, l'amie de la famille. C'est quelqu'un qui a été extraordinaire aussi. Elle est allée chercher Freud. Courage, courage. Elle va chercher Freud à Vienne. Elle paye la rançon pour les nazis. Elle est en même temps, elle le sauve de tout. Quand il a son cancer, elle s'en occupe. Elle est très extraordinaire. La première partie de sa vie, c'est Freud. Freud la sort de ses problèmes. On connaît le détail de son analyse. Marie Bonaparte souffrait d'une frigidité, de problèmes épouvantables. Elle se faisait opérer tout le temps dans des opérations qui, à l'époque, ne sont plus de mise. Enfin, on a raconté tout ça. Et Freud la fait accéder à une identité. Non pas de chef d'école, non pas de parce que l'œuvre n'est pas à la hauteur, mais elle devient quelqu'un avec Freud. Et il la soutient, il l'adore. Il aime cette princesse, il aime les princesses. Il y a quelque chose aussi là de très romantique.
Elle est à Freud ce que Malvida était à Nietzsche, d'une certaine
façon.
On peut dire
ça.
On peut le dire comme ça. C'est-à-dire un esprit bienveillant, érudit, donc savant et riche.
Oui, mais ce n'est pas Lou Andrea Salomé, hein, parce que Lou a quelque chose de plus que Marie. Il y a une œuvre, il y a une consistance. Marie, c'est une politique. Et la deuxième partie de la vie, elle va vivre jusqu'aux années 60, va au contraire être catastrophique, parce qu'elle va vivre en France, alors qu'il y a tout le renouveau, Lagache, Lacan, Dolto, c'est une personne du passé. Elle ressasse le passé et elle est à ce moment-là une figure du dogmatisme, du passéisme, de la nostalgie.
Mais, Elisabeth
et donc,
Roudinesco,
on ne peut pas dire que ce soit une novatrice.
D'accord, mais est-ce qu'en maintenant le passé, Marie Bonaparte n'est pas la plus fidèle qui soit à un geste typiquement freudien, qui était peut-être l'angoisse propre à Freud, que sa théorie, à l'instant où il l'a formulée, ne soit dévoyée? Est-ce qu'en somme, Freud lui-même n'a pas eu ce geste-là, sauf qu'on était à l'émergence de la psychanalyse et que c'était moins grave?
Écoutez,
est-ce qu'en maintenant, vous voyez ce que je veux dire, en ayant cette position de maintien absolu, elle n'était pas fidèle à Freud?
Écoutez, oui et non. Oui et non, parce que...
Une réponse de Normand.
Il y a eu les deux choses. Bon, et là, on le sait. Freud était, en effet, et ça a été un des très grands défauts, très autoritaire, voulait maintenir des positions à lui, notamment par rapport aux États-Unis, etc. Mais on a un moment...
Faut préciser, il détestait les Américains.
Il y avait de quoi, parce que c'était compliqué. En même temps, attention, il a voulu vivre à New York, il a eu un succès fou aux États-Unis. Ce qu'il avait compris pour les États-Unis, c'est que toute cette théorie, quand même, fondée sur cette grande pulsion de mort, les États-Unis ont adapté la psychanalyse comme un hygiénisme du bonheur. Pour trouver, ça a été extraordinaire. Moi, c'était le premier Freud, celui de l'hystérie, de la guérison de l'hystérie. Bien. Et Freud se rend compte, non, la tragédie, c'est le nazisme. Ça vide l'Europe de la totalité des écoles analytiques, et notamment l'école allemande.
Dont la moitié part aux États-Unis.
Dont les trois quarts part aux États-Unis, et surtout à Londres. Alors, quel épisode montre que Freud était quand même capable, malgré son autoritarisme, d'avoir des moments quand même qui n'ont rien à voir avec Marie Bonaparte, qui ne comprenait pas la nouveauté. Il y a un moment très, très complexe où Mélanie Klein, installée à Londres en 1924...
Il faut rappeler Elisabeth Roudinesco,
fondatrice de la psychanalyse d'enfants.
Élève d'Ernest Jones.
Élève de Ferenczi, un des élèves de Freud. Et que fait Mélanie Klein, qui devient anglaise? Elle invente la psychanalyse des enfants. Alors qu'Anna Freud et Freud, on analysait les enfants pas en bas âge. Et Mélanie Klein transgresse quelque chose d'extraordinaire. Elle dit on peut s'occuper plutôt des enfants de moins de 3 ans.
Oui, c'est-à-dire qu'en situant la volupté infantile à partir de 1 an, elle transgresse le freudisme lui-même.
Complètement. Et en fait, elle invente des dispositifs complètement nouveaux pour la psychanalyse d'enfants. La pâte à modeler, le pré-verbal, toutes sortes de choses. Et en fait, elle s'occupe aussi des parents. Mais l'idée qu'on va vers le noyau de l'enfant, c'est aussi l'enfant en soi, etc. Et Freud n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Mais Jones, un des plus fidèles de Freud, soutient Mélanie Klein contre Anna Freud, à Vienne. Donc, ce n'est pas non plus aussi simple que ça.
Donc, la postérité de Freud, c'est une rivalité entre sa fille d'un côté et celle qui se prétend son héritière et qui en trahit la parole.
Oui, mais Anna Freud, ce n'est pas non plus Marie Bonaparte. Elle est quand même, elle a produit une œuvre plus intéressante que Marie Bonaparte, qui est plutôt un chef politique, qui est fascinante, c'est une Bonaparte. Bon. Mais enfin, sans le code civil. Donc, on va le dire comme ça. Mais, si vous voulez, Freud, à un moment donné, qui est contre Mélanie Klein, qui n'est pas d'accord, et il va s'exprimer, il va dire pourquoi il n'est pas d'accord. Les arguments sont intéressants. Il pense qu'on va détruire l'enfance si on l'analyse trop tôt, etc. Il a complètement tort, il s'est trompé, et la postérité l'a montré. Mais Freud dit à ce moment-là, l'expérience tranchera, il se peut que je me trompe. Il se peut que je me trompe, l'expérience tranchera. Et à aucun moment, là, il va empêcher que se développe le mouvement kleinien en Angleterre. Donc, en même temps, il a le désir, et ça, il y a des défauts très forts de Freud, dogmatiques, mais en même temps, l'homme de science, par moment, l'intelligence prend quand même le dessus.
Alors voilà, là on est au cœur d'une ambivalence propre à Freud, justement. Parce que quand on lit l'interprétation des rêves, par exemple, hein, qui est le livre qu'il a écrit en 99 et que son éditeur a daté de 1900, pressentant l'importance d'un tel ouvrage,
oui,
lequel pourtant d'accord. s'est vendu à quelques centaines d'exemplaires en 5 ans. Donc, c'était
oui,
pas
mais à l'époque c'était beaucoup parce que tout, si vous voulez, la répercussion dans tous les milieux scientifiques a été importante.
Mais
Freud dira, ça, on ne m'a pas lu, mais c'est pas vrai.
Restons dans la lettre du texte, justement. Quand on lit l'interprétation des rêves, on a là un homme, notamment chapitre 4, qui se fait la totalité des reproches qu'on pourra lui faire plus tard, qui devance toutes les objections qu'on pourra lui faire. Et en même temps, c'est un homme dont même les amis les plus proches, même les turiféraires les plus ardents, ne cessent de dire qu'il était quand même particulièrement autoritaire et qu'en somme, on avait le choix soit d'être d'accord avec lui, soit d'avoir tort. Comment un homme qui ne supportait pas, qui tenait à ce point la contradiction pour une offense, pouvait-il en même temps être capable de se faire à lui-même autant d'objections ?
Ben justement, c'était la maîtrise des objections qu'on lui faisait.
Il était en charge, finalement, de la critique, en fait.
Absolument, il est en charge de la critique. Mais je vous ferai remarquer quand même qu'avec ses deux disciples préférés, Otto Rank, viennois, et Ferenczi, les ruptures ont été épouvantables. Autrement dit, ce n'était pas si simple que ça, dès que les ruptures ont touché ses propres fils et surtout les Freudiens entre eux. Autrement dit, la rupture avec Jung, c'était évident, ce n'était pas le même monde. Bon, donc c'était évident. Voilà. Après, c'est le mouvement analytique que Freud a fondé qui se déchire à l'intérieur. Et ça, pour lui, c'est dramatique. Il voudrait maintenir en effet cette unité. Mais les conditions politiques aussi sont redoutables. Le nazisme détruit la psychanalyse en Europe, dans toute l'Europe. Donc là, Freud, c'est un désespoir.
Il faut préciser d'ailleurs que sous une forme anémiée, sinistre d'ailleurs, la psychanalyse a survécu, sauf que le nom n'était plus, on n'avait plus le droit d'écrire le mot, mais a d'une certaine façon survécu sous le Troisième Reich.
Écoutez,
l'Institut Göring.
C'est la honte.
C'est la honte.
C'est la honte de Jones. Voilà.
Alors voilà, c'est Jones, pour ça que je le dis, parce que Jones, qui par ailleurs était le défenseur de Freud.
On ne va pas faire de Jones un pro-nazi, c'est pas ça. Ça, c'est l'erreur monumentale. Il a considéré qu'on pouvait sauver la psychanalyse sous le nazisme en maintenant à l'Institut Göring des psychanalystes.
Du nom d'un autre Göring, d'ailleurs.
C'est le cousin du maréchal Göring, qui était un psychologue. Bon, enfin, tout ça, c'est l'histoire. C'est la honte. Voilà. Et Freud laisse faire. Ça aussi, c'est pas bien. Freud laisse faire. Il n'est pas d'accord, mais il laisse faire. Pourquoi il laisse faire ? Contre l'avis, d'ailleurs, d'Ettingen. Précisément, là, on a le défaut de Freud. Il pense que tant qu'à faire, dans l'apocalypse qui est devenue l'Europe, si on peut maintenir de la psychanalyse n'importe où, et notamment sous le Troisième Reich, pourquoi pas ? Bien. Quand il va s'agir ensuite, en 1938, de faire la même chose à Vienne, parce que Jones veut recollaborer, j'aime pas le mot collaboration parce qu'en même temps, Jones aide les Juifs à sortir d'Allemagne. Hein. Donc, il y a les deux attitudes. Enfin, la politique de sauvetage, c'est la honte. Et quand Jones veut imposer aux Viennois la même politique, les Viennois refusent. À savoir, ça supposait l'exclusion des Juifs. Ce qui veut dire qu'en 1935, Jones accepte que les Juifs soient exclus de la société allemande et qu'on reste avec des bons Ariens. Donc, ça s'appelle pas la psychanalyse, ça s'appelle quelque chose qu'on ne peut pas accepter.
Si j'étais lacanien, je vous demanderais de quelle façon vous écrivez bons à rien, Elisabeth Koulinesco. Juste une chose, parce que le temps passe quand même, et c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter. Freud se vivait-il comme juif ?
Oui, bien sûr, mais dans ce qu'on appelait la judéité.
Est-ce que c'était une judéité négative, au sens où il était désigné comme juif par les antisémites viennois qui le privaient d'une carrière universitaire, ou par l'antisémite qui tape sur la tête de son père quand il est petit ?
Freud avait assimilé la notion de judéité, c'est-à-dire rester juif dans un monde, l'identité juive dans un monde où on peut être athée. C'était l'héritage de la Hashkala, c'est-à-dire des juifs des Lumières. Ils se vivaient comme juifs, parfaitement anti-judaïques. au sens que, alors là, il était l'ennemi de la religion, un peu trop d'ailleurs, parce que en même temps, il y revenait tout le temps, il savait qu'il était l'héritier de la tradition judéo-chrétienne, mais il était violemment athée. Et il faut dire aussi qu'il a eu tous les religieux contre eux. Freud était donc de ces juifs universalistes du début du siècle, qui étaient, c'était très intéressant parce qu'il a été contre le sionisme. Au sens où il pensait, je le montre bien, puis on a la lettre de 1930, que créer un État pour les Juifs serait un désastre, parce qu'ils auraient un territoire, et que le vrai esprit de la judéité, c'était l'absence de territoire, et que la grandeur des Juifs des Lumières reposait sur la diaspora, en quelque sorte. Et il était pas d'accord avec Theodor Herzl, mais en même temps, il suivait avec beaucoup d'attention, il était administrateur de l'Université de Jérusalem, et il suivait avec beaucoup d'attention tout ce qui se passait. Et il se sentait juif.
Au docteur Chaim Koffler, qui lui demandait de signer une pétition condamnant les Arabes pour une émeute survenue en 1929 en Palestine, Freud répond ceci en 1930. « Cher docteur, je ne peux faire ce que vous souhaitez. » Je me sens incapable de surmonter mon aversion à accabler le public avec mon nom, et même ce moment critique ne me paraît pas le justifier. Quiconque désire influencer les masses se doit de leur donner quelque chose de vibrant et d'enflammé, et mon sobre jugement sur le sionisme ne le permet pas. Il est sûr que je sympathise avec ses buts, je suis fier de l'Université de Jérusalem, et la prospérité de ses implantations me fait plaisir. Mais d'autre part, je ne pense pas que la Palestine pourra jamais devenir un État juif, ni que les mondes chrétiens et islamiques soient prêts à ce que leur lieu saint soit sous contrôle juif. Il m'eût paru plus judicieux d'établir une patrie juive sur une terre moins chargée d'histoire. Mais je reconnais qu'un point de vue aussi rationnel aurait peu de chances d'obtenir l'enthousiasme des gens et le soutien financier des riches. Je concède avec tristesse que le fanatisme infondé de notre peuple soit en partie à blâmer pour avoir éveillé la méfiance arabe. Je ne puis cultiver de sympathie pour une piété mal dirigée qui transforma un morceau de mur d'Hérode en relique nationale, offensant ce faisant les sentiments des autochtones palestiniens. Jugez-vous-même maintenant si, avec un tel point de vue critique, je suis la personne qu'il faut pour conforter un peuple pris dans l'illusion d'une espérance injustifiée. Votre respectueux serviteur, Sigmund Freud.
My professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Im Alter von 82 Jahren verließ ich infolge der deutschen Invasion mein Heim in Wien und kam nach England, wo ich mein Leben in Freiheit zu enden hoffe. Mein Name ist Sigmund Freud.
Merci Elisabeth Roudinesco d'être venue nous voir. Avec vous s'achève donc la première des 5 émissions que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent à Freud. Alors de vous, Elisabeth Roudinesco, je pourrais signaler bien des travaux, et tous passionnants, trop nombreux d'ailleurs pour les noyer à l'antenne. Citons seulement, si vous voulez bien, le dictionnaire de la psychanalyse coordonné à quatre mains avec Michel Plomb, et également « Notre cœur tend vers le sud », ça c'est la correspondance de voyage de Sigmund Freud, et je renvoie vraiment très, très chaleureusement l'auditeur à votre préface, et je renvoie également l'auditeur à notre site internet pour trouver cette fois-ci tous les détails sur votre bibliographie. Demain, c'est de l'interprétation des rêves, hein, l'ouvrage de 1899-1900, que nous parlerons avec Laurence Kahn. À la musique aujourd'hui, c'était Woody Allen, à la technique Vincent René, à la réalisation Jean-Claude Loiseau, assistante évidemment Geneviève Méric, Avril Ventura, Adèle Van Rett et Léa Weinstein. France Culture, il est 17h, juste après le regard d'Albert Jacquard, vous avez rendez-vous avec Laurent Goumard.